Bienvenue à Sur la ligne, c'est l'émission Tout Tennis cette semaine. On parle de l'une des compétitions les plus spectaculaires de la saison, la Coupe Laver. On est excité, mais avec une certaine réticence, puisque le dossier Alex Zverev est toujours dans l'air. On parle aussi de tennis avec un grand amateur de sport, l'animateur Jean-François Barry. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok oui, c'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver. Je suis seul en direct de l'hôtel Montville. Je suis sûr que Hugues Léger est déçu de ne pas être là aujourd'hui en cette journée d'élection, mais c'est un peu compliqué le déplacement. T'habites loin, Hugues. Comment ça va dans ton Grimby natal? Dans ton Grimby de chez toi?
En fait, je suis dans les cantons de l'Est. Je suis pas à Grimby, mais je donne des cours au sport-études ici à l'Interplus de Grimby. Il fait beau, il fait bon. Je suis resté ici pour aller voter aussi aujourd'hui. On encourage tout le monde, évidemment, à aller voter. Ceux qui vont entendre le podcast, ça va être un petit peu tard peut-être ce soir, mais voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Et là, pour les gens qui sont en version vidéo, je veux vous montrer le setup de Hugues. Et Hugues, on va publier cette photo-là sur les médias sociaux. Je veux vous montrer à quel point Hugues est dédié et en plein milieu du terrain de tennis avec son ordinateur, son micro, prêt à enseigner, prêt à communiquer, le monsieur est de tous les combats. Spectaculaire, 10 sur 10 pour effort, Hugues.
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut produire à peu de frais des émissions de qualité en 2021, donc c'est la preuve devant vous en ce moment.
Et si vous ne l'avez pas remarqué, son ordinateur est littéralement sur une poubelle et recyclage. Alors voilà, très débrouillard. Nico, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Un peu déçu par contre, là, hier j'étais devant mon téléviseur avec breuvage et bonne bouffe devant les Gémeaux, pensant qu'on allait gagner, et non.
Enfin. L'an prochain.
J'ai un peu de travers, là. Je vais être franc avec vous, mais on va s'en remettre.
Parce que la vérité, c'est que j'ai oublié de nous inscrire.
Ben,
c'est juste pour ça. Sinon, on gagnait.
Mais non, ça va super bien. Écoute, quelle belle semaine de tennis. Encore une fois, on dirait que ça n'arrête pas depuis le début de l'année 2021. C'est complètement fou. Et là, on parle de la Coupe Laver et ça m'excite beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais, ben je suis d'accord avec toi. Ça va être bien intéressant. Moi, c'est une de mes compétitions préférées. J'étais en amour avec cette compétition dès la première édition. C'est vraiment trippant. D'ailleurs, on va peut-être essayer de parler à Fred Gay aussi la semaine prochaine. Là, on a eu des contacts avec TVA Sports, elle est disponible pour venir nous parler un peu de cette compétition-là qui est cool. On va en parler, ça c'est certain, parce que bon, il y a non seulement le spectacle télévisuel, mais également l'affaire Zverev qui fait jaser. Et ben messieurs, sautons tout de suite dans la Coupe Laver. Moi, je disais que c'était une de mes compétitions préférées. Toi, Hugues, tu l'apprécies comment, cette compétition-là?
J'adore la Laver Cup, ça commence bien. Je pense que c'est un tournoi qui met de la pression encore plus sur la Coupe Davis avec la TP Cup qu'on connaît en début d'année aussi. Mais cette formule par pays, concentrée avec quelques, ou par continent, avec quelques joueurs les mieux classés, est vraiment intéressante. De l'attrait des coachs, Bjorn Borg d'un côté, du côté Europe et Team World avec John McEnroe. C'est vraiment excitant et on voit que les gars prennent du plaisir à jouer. Nick Kyrgios dit que c'est sa semaine préférée de l'année. Ça met la table un peu pour le genre de divertissement qu'on aura à la fin de cette semaine en direct de Boston.
Nick Kyrgios, il est le prototype de joueur que tu veux voir dans ce genre de compétition-là, ça c'est sûr. Nico, toute cette compétition-là, tu l'aimes comment?
Je l'adore. Probablement ma compétition préférée après les tournois du Grand Chelem et l'Omnium Banque Nationale. Ce que j'aime de cette compétition, c'est qu'elle est unique en tout point. Il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien qui ressemble à ça. J'aime le visuel tout noir. Je suis un fan. J'adore l'esprit d'équipe. Le tennis, c'est évidemment un sport d'équipe. On le sait avec les thérapeutes, les entraîneurs, mais ça demeure un sport grandement individuel pour ce qui est de la compétition. Mais là, d'avoir les coéquipiers sur le banc de touche juste à côté, il y a une ambiance un peu style Coupe Ryder au golf, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose dans ce tournoi-là. Il n'y a aucun match qui est gagné d'avance. C'est serré tout le temps jusqu'à la toute fin. Vraiment, c'est une semaine extraordinaire, et d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça se passe à Boston, la plus belle ville du monde, donc on ne peut qu'à être choyé de cette semaine Laver Cup.
Après Saint-Jérôme, quand même?
Après, oh oui, bien sûr, c'était une évidence même, c'est pour ça que je ne l'ai pas souligné, mais oui, évidemment.
Hugues, ce format-là a été bâti spécifiquement pour la télé traditionnelle, c'est-à-dire qu'on veut un spectacle, on veut que les matchs soient un peu plus courts également. C'est vraiment basé pour, bon, c'est télévisuellement, c'est exactement ça qui était voulu pour cette compétition-là. Est-ce que c'est le modèle qu'on pourrait voir pour tout le tennis en général éventuellement, selon toi?
Écoute, il y a beaucoup d'essais de laboratoire en ce moment à gauche et à droite. Là, on a parlé de Mouratoglou avec l'Ultimate Tennis Challenge, l'ATP Cup aussi. Donc, il y a plusieurs essais qui se font en ce moment là sur des formats différents. Oui, c'est pour la télé traditionnelle parce qu'oubliez pas qu'on a une clientèle, on en parle souvent, qui est essentiellement en haut de 45 ans. Mais ce format-là, s'il fonctionne, ils vont l'amener sur d'autres plateformes tôt ou tard. Donc, ça, c'est garanti pour moi. Donc, je fais remarquer aussi un autre truc. L'excitation est à son comble, bien qu'il n'y ait aucun du Big Three ou de l'ex-Big Three qui est présent. Et ça démontre un peu où on en est en 2021. Moi, je suis totalement excité de voir Félix, de voir Chapovalov contre Medvedev, Tsitsipas, Zverev. On n'a plus besoin du Big Three, c'est clair en ce moment. Donc, je rajoute ça à l'intérêt de ce tournoi-là cette année et de sa formule.
Ah, c'est intéressant, ça. Toi, t'aurais pas aimé ça, voir un Nadal ou un Federer quand même dans cette compétition-là, ou un Djoko même, Nico? Parce que je pense que Hugues,
c'est sûr que de voir, on l'a vu lors de la dernière édition il y a 2 ans, de voir jouer en double Nadal et Federer, c'est une expérience unique et j'ai envie de dire historique. Parce que de voir ces deux gars-là qui jouent en fait jamais ensemble parce qu'ils ne viennent pas du même pays, ne font pas beaucoup de tournois en double et sûrement pas ensemble, c'était vraiment exceptionnel. Après, on l'a souvent dit, c'est à l'émission, on veut instaurer la relève. On veut voir les nouveaux joueurs, on veut voir les futures vedettes, quoi qu'elles en sont déjà bien installées. Mais oui, ce genre de tournoi, c'est fait pour la jeunesse, c'est fait pour un jeu rapide. C'est sûr que de voir Djoko, Nadal et Federer, ça aurait été chouette, surtout avec cette cuvée de jeunes joueurs, ça aurait pu faire un bon parrainage. Mais oui, évidemment qu'on aurait aimé les voir, surtout un Djoko qui est en pleine possession de ses moyens encore aujourd'hui. C'est un peu triste, mais je regarde la brochette d'athlètes qui sont là, on ne peut pas se plaindre.
Team Europe, Team World.
Ouais.
L'Europe a gagné les 3 premières éditions. Et je veux rien enlever à Chapovalov et Félix, mais je pense que Team Monde n'est pas de taille une fois de plus cette année.
Bien, lorsqu'on regarde l'équipe Europe, je vais vous la nommer, là, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Rude et Lopez comme remplaçant, c'est toute qu'une équipe de tennis. Honnêtement, ce sont probablement là, les 5 meilleurs joueurs disponibles sont dans l'équipe Europe. C'est pas mêlant. Par contre, il faut souligner de l'équipe Monde avec Chapovalov, Schwartzman, Ogiel Yassim, Opelka, Isner, Kyrgios et Jack Sock comme remplaçants, peut-être moins talentueuses, peut-être moins de talent pur au sein de cette équipe, mais je ne veux pas les négliger parce que ce sont tous des joueurs de caractère et dans un format comme celui-là, je pense que l'esprit d'équipe et la chimie seront ultra, ultra importantes. Oui, l'équipe Europe est très talentueuse, mais je pense qu'il y a beaucoup d'égo dans cette équipe-là. Et lorsque je regarde des joueurs comme Chapeau, comme Félix, comme Isner, comme Kyrgios, comme Jack Sock, qui aiment jouer en équipe. On l'a vu dans plusieurs compétitions. Je pense que la chimie sera excellente. Et aussi, il faut le souligner, les parties doubles sont souvent très importantes dans la Coupe Laver, comme on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de cette compétition. Et en double, je donne l'avantage à l'équipe monde. Pourquoi? Parce que Isner, parce que Sock, parce que Kyrgios et parce que Opelka, des joueurs extrêmement solide en double et je pense que la différence peut se faire là. Évidemment, si j'avais amusé une patte d'ours, ce serait assurément sur l'équipe Europe, mais je pense pas que ce sera aussi serré qu'on peut se l'attendre.
Et tu oublies que Félix est champion de Masters 1000 en double?
Aussi, tu as raison. Non, Félix, c'est vraiment pas un vilain joueur de double aussi. Donc, pour cet aspect-là, pour l'espèce de polyvalence de cette équipe monde, avec un John McEnroe aussi qui, je pense, aura la capacité de souffler ses troupes, je ne veux pas négliger l'équipe monde, loin de là.
Ouais, John McEnroe, c'est un show, c'est un show en lui-même. Hugues, tu sembles de retour. Entre Team Europe et Team World, je donne pas cher de la peau de l'équipe monde quand je regarde le line-up. Toi, tu vois ça comment?
Ben, je reviens sur un truc que je commençais avant d'avoir un petit souci de connexion. Là, oubliez pas qu'on a déjà vu Federer et Nadal en Lever Cup. Donc là, encore une fois, ça reflète juste la réalité du tennis en 2021, ce qu'on voit comme line-up, c'est pour les... Aussi, je pense que Team Europe est une coche au-dessus. Ça aussi, ça reflète la qualité du développement à ce jour des pays européens qui dominent globalement sur le tennis mondial en ce moment. Mais encore une fois, dans ce format-là, je vois l'équipe de Team World et tout est possible. Je pense que ça va être très, très serré. J'ai de la difficulté à donner un gagnant, bien que le line-up de Team Europe soit une petite coche au-dessus, selon moi.
Ah, pour moi, les gars, il n'est pas une petite coche, il est une méga coche au-dessus. Là. Je veux dire, je n'ai rien enlevé à Chapeau, à Opelka, à Eisner, à Félix, à Schwartzman.
On a les top 5.
Tu sais, Daniil Medvedev, il est le meilleur joueur au monde présentement. Là, je veux dire, au moment où on se parle, si tu as un gars à prendre en ce moment, je ne te dis pas à la fin de l'année, il va être numéro un, mais tu peux pas gager contre Daniil Medvedev, c'est le meilleur joueur au monde. Stefanos Tsitsipas a une excellente saison. Zverev, on en reparlera, tu peux l'aimer ou pas l'aimer. Si tu étais avant l'US Open un des top 5, le joueur le plus en feu et un des meilleurs joueurs au monde. Kasper Rudd, c'est incroyable. Matteo, je veux dire, tous les joueurs ont un avantage ou presque sur tous les autres joueurs. À part peut-être Nick Kyrgios.
Alex, oublie pas par contre que c'est pas un grand chelem. Là. On vient du US Open. Medvedev a fait un gros tournoi. Il doit être fatigué un peu. C'est pas un tournoi d'exhibition. Je pense que le niveau d'intensité et de préparation ne sera pas le même que pour un grand chelem. Donc, ça vient égaliser les choses un peu, selon moi. Bien que sur la carte, encore une fois, la fiche des joueurs de Team Europe est largement supérieure.
Et oubliez pas aussi, les gars, que dans ce tournoi-là, ça se passe vite. C'est seulement sur 3 jours. Ça marche par points. Il y a beaucoup question aussi du momentum. Imaginez un instant si, par exemple, je ne sais pas, Félix bat d'entrée de jeu un Zverev. La tendance peut renverser extrêmement rapidement. Ensuite, qui dit qu'un Kyrgios ne peut pas battre, je ne sais pas, un Berrettini? Donc, oui, un avantage certain du côté de l'Europe, mais dans un tournoi qui est aussi court et où le momentum est aussi important, si rapidement l'équipe monde s'installe avec une ou deux victoires d'entrée de jeu, attention.
J'ai une petite question pour vous, les gars.
Allons-y.
Bon, du côté Team Europe, c'est assez évident, le meilleur joueur, c'est Daniil Medvedev. Ça, on va tous s'entendre là-dessus. Qui est le meilleur joueur du côté canadien?
Félix.
Du côté équipe monde?
C'est Félix. Aucun doute là-dessus. Présentement, là, on parle de la saison complète, c'est peut-être pas Félix, mais présentement, le joueur le plus dangereux de l'équipe monde, c'est Félix. Écoute, il grimpe au classement, s'approche d'un top 10, joue bien, le vent dans les voiles, il est beau à voir aller sur le terrain, en entrevue, il a confiance, son association avec Tony Nadal commence à porter fruit. Honnêtement, dans ce groupe-là, Félix, loin devant.
Oui. Et je pense que les gars qui veulent continuer de démontrer qu'il mérite d'être dans le top 10, fait qu'il peut faire un statement dans ce pool de joueurs-là aussi. Donc, je pense que Félix va être très fort et moi aussi, je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe monde cette semaine.
Les gars, je suis fier de vous, première des choses. Je suis fier de votre appui à Félix Auger-Aliassime qui le mérite après le tournoi qui va le faire, mais moi, je vais m'inscrire un peu en faux, ironiquement.
Bien.
Je pense que Shapovalov est le meilleur joueur de cette... C'est lui qui a été, de façon générale, le plus constant cette année. Effectivement, là, Félix va arriver avec une bonne séquence au US Open avec une demi-finale. Mais si tu me demandes qui peut battre Daniil Medvedev là-dedans, je pense qu'il y a deux gars. Nick Kyrgios, parce qu'il peut battre n'importe qui au monde s'il décide de s'y mettre. Mais je pense que l'autre qui a les meilleures chances, c'est Shapo. Est-ce que je suis dans le champ?
Bien, c'est parce qu'évidemment, le format l'avantage beaucoup. Où la foule sera en délire, où c'est un format en équipe, Chapeau peut driver une foule, Chapeau peut rapidement faire la différence dans un format comme ça. C'est pas compliqué. Fait que oui, évidemment qu'il a un avantage certain sur Félix parce que Chapeau est peut-être plus gamer, peut-être plus joueur. Et dans ce format-là, ça l'avantage beaucoup. Ouais. Ensuite, sur le plan purement tennistique, dur d'en douter. Mais après, pour ce qui est du format et de ce que ça peut donner sur le terrain, assurément, Chapeau a une carte dans sa poche que les autres joueurs n'ont pas. Là.
Le format aussi, Super Tiebreak, avantage les gros serveurs. Et ça, je pense que c'est avantage côté Team World avec Opelka, Isner et Kyrgios qui sont peut-être en ce moment, les trois plus gros serveurs du côté de l'ATP. Il y a peut-être Matteo Berrettini là, qui peut venir mêler les cartes, mais je pense que du côté du service, c'est avantage Team Monde. Et ça, dans le format Super Tie Break, s'il fallait que ça se rende 2-7 et plus, je pense que c'est un avantage Team Monde.
Ben oui, comme ben surtout en double. Écoute, je me répète, mais c'est tellement important le double dans cette compétition-là. Il y a une partie de double par jour. Et honnêtement, là, si mettons on met ensemble Isner et Opelka ou Isner ou Kyrgios et même qui sait Jack Sock pourrait embarquer. Oui, ce sont d'excellents joueurs là, du côté Europe, mais de bons joueurs de double. Permettez-moi d'en douter. Alors, c'est pour ça que oui, du côté, surtout dans une surface dure comme celle de la Coupe Laver, à Boston, à l'intérieur, le service sera ultra, ultra important. Et tu parles de Opelka, Isner, Kyrgios, bien entendu, mais même au cours des dernières semaines, Félix a très, très bien servi. Là, rapidement, il faudrait inclure Félix parmi les bons serveurs du circuit. Et honnêtement, plus on en parle, plus j'ai tendance à dire que Team World a beaucoup de bons joueurs et a beaucoup de chance. Là.
Les gars, je veux parler un peu de la foule à Boston, là, parce qu'on sort d'un US Open où on sait que la foule a été le troisième joueur tout le temps. Oublie pas que McEnroe, comme coach de Team World, peut générer beaucoup de passion au niveau de la foule. Je pense que la foule va être un facteur durant la Laver Cup cette année, et ce qui peut venir aussi brouiller les cartes un peu et donner un petit boost supplémentaire à Team World.
Intéressant, là, ça, l'avantage de la foule, d'une certaine manière, ouais, je pense que la foule se rangera de façon générale derrière l'équipe Monde, puisqu'il y a deux Américains dans cette équipe-là. Oui. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas tendance aussi peut-être à encourager le champion du US Open?
En fait, ça dépend qui est dans les estrades. Est-ce que ce sont... En fait, dans les estrades, est-ce que ce sera des fans de tennis ou des fans d'événementiel? Parce que la différence, elle est là. Parce qu'évidemment que si ce sont juste des... Parce que, tu sais, Boston, c'est une ville très festive qui aime ses équipes sportives. Il y a beaucoup d'amateurs de sport à Boston. Donc, je pense que si une foule qui aime juste le sport, qui aime l'événementiel, on se rangera du côté de Team World. Mais si ce sont vraiment des amateurs de tennis purs et durs, là, peut-être que la tendance pourra changer.
Intéressant. Ben, je pense que ça peut jouer en effet. Tu sais, je me souviens de Chris Evert pendant le, c'était Pam Shriver pendant le US Open qui disait que la foule pouvait jouer un rôle. Est-ce que tu penses que la foule va être similaire à Boston que celle qu'on a vue au US Open, Hugh? Ben, je vais poser la question.
Oui, parce que les gens sont contents de revenir dans des situations où les stades sont remplis. Je pense que la foule va être très impliquée dans les matchs. Donc oui, ça va être le même genre de feeling, je crois, qu'au US Open, dans la relation entre le terrain et la foule.
Nico, toi?
Ben oui, à la différence près que je pense que la foule de Boston au TD Garden sera peut-être plus polie, plus fair play. Parce qu'on le sait, au US Open, c'est électrique, il n'y a pas de limite. C'est très, très, très difficile de contrôler la foule de Flushing Meadows. Et à Boston, les gens sont, en tout cas de ce que j'en sais, pour y avoir été à quelques reprises, sont plus polis, plus traditionnels. Tu sais, à New York, c'est un peu plus foufou, là. Alors oui, je pense que oui, ce sera absolument du délire total là, au TD Garden, mais je pense que ce sera peut-être plus calme et plus facile de jouer. On se rappelle Medvedev qui en voulait peut-être à la foule là, ou à Flushing Meadows lorsqu'il voulait servir, notamment sur un point de championnat, et que la foule ne lui laissait pas le temps de servir, ne lui laissait pas le temps de se concentrer. Je pense qu'à Boston, il n'aura pas ce problème-là.
Messieurs, je vous lance complètement en dessous de l'autobus. Trois joueurs de cette édition-là ont joué toutes les Coupes Laver depuis le début de cette compétition. Qui sont ces trois joueurs? Et Nico, pas le droit de chercher.
Non, il y a assurément Jack Sock, assurément John Isner et assurément Nick Kyrgios.
T'en as deux sur trois.
Il me semble que Medvedev n'était pas là.
Veux-tu prendre une chance?
Moi, je dis Isner, Zverev et Kyrgios.
Of course, là, Hugues est toujours right on. Là.
Très fort.
Hugues, s'il fallait qu'on se parte un génie en herbe du tennis, je le choisis en premier dans mon équipe. C'est terminé. C'est sûr qu'on gagne.
Très fort.
Alors, voilà, c'était effectivement Isner, Kyrgios et Zverev. Et messieurs, parlant de Zverev, ça, c'est un dossier qui m'intéresse. et je veux qu'on puisse en parler parce que ça a commencé, ça a fait jaser beaucoup pendant le US Open, c'est-à-dire que l'ATP n'a toujours pas officiellement reconnu cette situation-là, sans dire qu'il doit être suspendu ou quoi que ce soit, je pense pas que ce soit la question. Je pense que ce qu'on veut, en tout cas du côté de certains journalistes à tout le moins, c'est de au moins que l'ATP fasse enquête. Okay. Et là, qu'il soit invité dans une compétition comme ça, avec tout le background qu'il y a derrière lui, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Hugues, je commence avec toi, c'est toi l'expert de marketing.
Écoute, le fait que Zverev, cette histoire-là, reste toujours sous le radar, ça me dépasse un peu. On dirait que le circuit nie ou attend plus de preuves concluantes légales. On sait que notre collègue Ben Waterberg du New York Times nous en a parlé souvent, ne lâche pas le dossier. Je suis un peu étonné. Moi, je pensais que l'histoire était pour sortir en fin d'année 2020, vous vous souvenez. On avait parlé au mois de novembre. C'est pas arrivé après l'US Open, bien qu'on en a parlé encore. Donc, c'est très, très étonnant que ça continue. Mais visiblement, tant son sponsor Adidas que les promoteurs de tournois, que le circuit attendent avant de se positionner là-dedans. Et peut-être qu'ils vont s'en mordre les doigts bientôt.
C'est quoi la solution? Parce que tu peux pas le condamner.
Ben non, ben c'est ça. Donc, eux attendent des preuves légales. Donc, tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est des allégations, il y a un recours qui doit avoir lieu. Et tant que c'est pas avéré, ils peuvent rien faire. Mais je te dis, ils sont sur des charbons ardents en ce moment. Mais moi, je suis aussi d'avis que, avec toutes les dénonciations qu'il y a eu depuis plusieurs années, un peu rapidement, moi, je suis plutôt du côté des preuves. Donc, j'attendrai aussi, d'un point de vue commanditaire, d'avoir les preuves avant de condamner qui que ce soit. Mais le dossier est de plus en plus chaud, là.
Mais en fait, en tout cas, Nico, avant que je donne mon opinion, je vais te laisser dire, qu'est-ce que tu penses du fait que Zverev soit dans une compétition comme ça?
Ben, ça ne m'étonne pas. En fait, c'est juste la suite logique des choses. Je ne vois pas pourquoi l'ATP aurait suivi maintenant, connaissant le dossier. Je veux dire, c'est juste logique, je pense, qu'il termine la saison, même si je ne suis pas d'accord. Je comprends le raisonnement. Après, mon Dieu que c'est curieux et que ça me rend mal à l'aise que Zverev puisse profiter de tous ses privilèges, de tous ses tournois, de toutes ses belles opportunités, sachant ce qui est arrivé. Évidemment, attendons la preuve. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'accusation de portée. Mais j'ai de la misère à mettre en doute le travail de Ben. J'ai de la misère à remettre en doute les déclarations de son ancienne copine. Dans un monde, en 2021, on en laisse passer de moins en moins. Je trouve ça curieux que l'ATP, que la Coupe Laver aussi, parce que c'est aussi comme une espèce d'organisme indépendant, puisse faire abstraction de ça. Ça me dérange beaucoup et je pense de plus en plus que ça dérange les joueurs. Milos Raonic notamment, et malheureusement, je pense que plus on attendra, plus ce sera difficile de sévir, parce qu'il y a une espèce de passé qu'on... Là, Zverev va dire, ouais, mais ça fait un an et demi, vous savez, deux ans, vous faites rien, puis là, vous allumez. Donc, plus on étire, plus ce sera difficile de condamner Zverev.
Ouais, je suis d'accord avec toi, puis moi, c'est même pas une question de le condamner ou quoi que ce soit, c'est juste que l'ATP n'a pas reconnu, en tout cas publiquement, ce qui s'est passé. Tout ce qu'ils ont à faire, selon moi, c'est de dire, bon, on a pris connaissance des allégations, on a fait une enquête à l'interne. Rien ne nous indique à l'interne. Ça se peut là qu'il y a eu quoi que ce soit de fait qui est répréhensible. Et ça s'arrête là. That's it, t'arrêtes le débat. Puis s'il y a autre chose qui sort, ben l'ATP, tu dis, nous, à l'enquête qu'on a fait, il y a rien. Mais ils n'ont pas parlé à Sharipova. Ils ont pas, semble-t-il, en tout cas, je me fie à Ben Rutherberg, ils n'ont pas parlé. Et c'est comme si on gardait ça en dessous du tapis. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des idées pour tout le monde. Enfin,
parce que tu sais, Alex, tu le sais, tu as travaillé en journalisme comme moi. Puis rapidement, qu'est-ce qu'on fait dans une gestion de crise? On pousse un
contrôler le message.
On contrôle le message. Mais là, l'ATP ou même le clan Zverev, en tout cas, à moins que je me trompe, là, n'ont rien sorti. C'est silence radio. Donc, comment
c'est l'autruche.
Exact. Donc, comment tu veux gérer un problème, un conflit, une controverse en étant absent du débat? Pour moi, c'est juste illogique, là, d'un point de vue communicationnel du moins. Là.
Mais lui, il a dit « j'ai rien fait, donc il n'y a rien à dire ».
Oui, mais il y a certainement son agence, certainement Adidas, qui pourrait dire « avant de faire quoi que ce soit, on va attendre, il n'y a rien qui a été fait ». Puis je me demande vraiment qui a le gros bout du bâton dans cette histoire-là, vraiment.
Et Sharipova, son ex-copine, a dit qu'elle allait, en tout cas, à moins que ça change, elle a dit qu'elle allait pas porter plainte à la police. Alors, ça met un peu tout le monde dans une situation. En tout cas, Moi, je veux le voir jouer Zverev parce que c'est un joueur de tennis exceptionnel, mais je pense qu'il faudrait au moins qu'il y ait une enquête à l'interne de l'ATP pour calmer le jeu, à tout le moins. Parce que là, on vit tous avec un certain malaise. Puis le tennis britannique, il en parlait pendant l'US Open, il disait « j'ai un malaise, que personne n'en parle ». ESPN n'en a pas parlé avant la toute fin du tournoi, jusqu'à ce que Ben Rutherberg justement soulève le fait que personne n'en parlait. Ils en ont parlé du bout des lèvres dans un reportage. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de mettre ça en dessous du tapis. Enfin, ça, c'est mon opinion. Maintenant, sur le terrain, moi, j'aime le voir jouer, mais j'ai quand même un certain malaise que toute cette situation-là, on joue à l'autruche. Merci, messieurs. On va s'arrêter quelques instants. Au retour, on jase avec Jean-François Barry. Le 30 septembre, en soirée, ce sera le grand lancement de la toute nouvelle terrasse de l'Hôtel Montville. Une vue imprenable sur Montréal, un tout nouveau décor et bien plus encore vous attendre. Pour réserver votre place à la soirée d'inauguration, rendez-vous sur le site hotelmontville.com. Alors Nicolas, je suis très content de recevoir aujourd'hui un gars qui trippe sur le sport, pas à peu près, il en pratique, il en regarde, il en commente maintenant, il en commente beaucoup à la radio, à la télé, etc., Jean-François Barry. Merci Jean-François de te joindre au podcast sur la ligne et de venir de jaser de tennis un peu avec nous.
Ben, ça me fait plaisir, tu vois, j'ai encore les cheveux mouillés, j'arrive d'aller jouer dans ma ligue de garage. Là.
As-tu compté des buts?
Oui, j'en ai compté. J'ai fait des passes, mais on a perdu en bout de ligne. Mais c'est pas grave, au moins, c'était le fun de revoir la gang. Là, pendant 2 ans, on a à peine joué. Fait que voir la gang se taquiner un peu, transpirer, ça fait du bien.
Ah ben tant mieux. Fait que là, t'es reposé, relaxé pour venir jaser de tennis avec nous.
On peut dire ça. Reposé, je sais pas, là, je cherchais mon souffle un peu, mais je suis de bonne humeur en tout cas.
Ah ben ça c'est la bonne nouvelle. Écoute, moi je t'ai contacté parce que bon, je t'écoute à la radio, je t'écoute à la télé également, et j'avais jamais noté à quel point bon tu pouvais t'intéresser au tennis, mais là pendant l'US Open, je pense que tu as pris une petite piqûre là, est-ce que je me trompe?
En fait, moi je m'intéresse au sport. J'aime les histoires, l'émotion derrière le sport. Le hockey, ça, je m'y intéresse au-delà de tout. Mais quand je vais dans les autres sports, c'est comme présentement là, la course des Blue Jays avec les Red Sox, les Yankees, là, je suis ça assidûment parce que, tu sais, on a quelque chose là. Les jeunes Blue Jays sont tellement le fun à regarder, bon, etc., etc. Le tennis, c'est la même chose. Je le suis du coin de l'œil. Puis, à un moment donné, je me scotch tape dans mon salon, dans mon sofa parce qu'il y a une histoire qui se dessine. Et là, il y en a eu de spectaculaires avec nos deux Québécois. Particulièrement, là, moi, celle qui m'a fait vibrer, c'est Leila Lee Fernandez. Un après-midi comme ça, parce que justement, j'allais en parler là, dans ma chronique radio, je me suis dit, tiens, je vais m'installer, je vais regarder le tennis. C'est toujours plus facile d'en parler lorsque tu as vu le match. Puis là, je tombe en amour avec cette petite, parce que c'est une toute petite, là. Elle est tout jeune, puis en plus, elle est toute menue à côté des autres. Mais quelle force de caractère, quel beau tennis. Puis après ça, on a découvert l'être humain, là, qui s'est... en entrevue avec le micro, est incroyable et tout. Fait que là, oui, j'ai trippé solide comme bien les gens au Québec. Là, vous avez vu les codes d'écoute. Ça accotait des matchs de saison régulière du Canadien. Puis même, ça dépassait des matchs de saison là, pour la demi-finale de Leila Fernandez. Il n'y a pas grand monde qui aurait gagé là-dessus 2 semaines avant l'US Open.
Ah non, ça c'est sûr. Ben ça m'a fasciné parce que c'est ça, je voyais beaucoup de mes amis dans le monde des médias. Je veux dire, ça fait 15 ans que je travaille dans le monde des médias. Puis j'avais beaucoup de spécialistes de hockey qui se mettaient à tweeter sur le tennis. J'ai vu Michael Lancette, un de mes meilleurs amis. J'ai dit, il va falloir t'inviter au podcast, puis il va falloir te mettre sur le beat du tennis si ça continue comme ça. Qu'est-ce que tu penses qui fait que c'est devenu mainstream à ce point-là? C'est-tu vraiment comme l'histoire de Leila, tu penses, selon toi?
Mais tu veux dire pour cette fois-là?
Ouais, exact. Je trouve qu'il y a une vague plus grande que celle de Bianca il y a quelques années.
Ah, ben oui, ça. Mais il y en avait quand même une pas pire. Là. Puis, mais tu sais, Bianca, c'est une anglophone, donc peut-être que ça a vibré plus en Ontario qu'au Québec. Je suis moins certain qu'elle rejoignait autant les Québécois. Mais moi, j'avais trippé avec Bianca. Là. Moi, je l'appelle Bibi. Là. Tu sais, c'est ma Bibi. Là. fait que je l'ai encore ici. Là. Mais Leila, je pense que c'est la... Comment je dirais ça? C'était la négligée tout le temps. Juste visuellement, tu faisais... Elle n'a pas de chance. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. L'autre est plus grande, plus forte. Puis souvent, elle tirait de l'arrière. Puis là, tu voyais son intelligence. Tu voyais là, quand elle s'assoyait entre deux pauses là, à sa petite chaise ou elle continuait de branler les petits pieds, là, ses pieds bougent tout le temps. Puis là, tu voyais que dans sa tête, elle faisait des schémas de jeu. Puis là, elle revenait, puis elle réussissait à déjouer l'adversaire avec ses schémas de jeu parce que elle était, tu sais, son service, là, il était alentour de 85, 90, des fois,
elle n'a pas un gros service.
Les autres, c'était 115, 120, tu sais, était vraiment en arrière, mais malgré tout, elle plaçait ses coups, puis elle était formidable. Puis là, après ça, bon, il y a eu l'histoire de son père là, qui est sorti, tu sais, son père qui a tout fait pour elle, même à se priver de manger, là, tu sais, pour la carrière de Leila. Puis là, tu apprends tout ça, puis là, ça les rend attachants. Et moi, là où elle m'a jeté à terre, c'est vraiment en entrevue où tu sentais, tu sais, des fois, les joueurs de tennis, là, à la fin de n'importe quel... grand chelem, là, il se pitche à terre sur le terrain. Tu sens pas toujours que c'est senti. Là. C'est devenu une espèce de « je le fais parce que tout le monde le fait ». Elle, à la fin de ses matchs, là, tu sentais que ça sortait des tripes, puis pas à peu près. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a tout ça. Puis là, après ça, elle prenait le micro, elle est devenue attachante. Hey, honnêtement, New York s'est mis à vibrer pour Leila Annie Fernandez. C'est devenu la coqueluche. Je me souviens pas c'est lequel de ses matchs. Je pense que c'est contre Kerber, où à un moment donné, Kerber a levé les bras en voulant dire « Moi aussi, j'aimerais ça me faire encourager. » Fait que comment ça se fait que la 127e raquette mondiale se fait encourager plus qu'une tête de série? Elle est allée chercher le cœur des gens, ça s'apprend pas. Là, ça arrive, elle a quelque chose qui est tendre, qui est attachant. Puis ben, on a vibré, malheureusement, elle n'a pas été chercher le gros trophée, mais on a vibré jusqu'au bout.
Puis comme amateur de sport, là, tu sais, je pense que tu es un fan, plus que fan, même de sport de façon générale, je pense. Est-ce que c'est un moment qui va prendre une place peut-être particulière dans tes souvenirs de sport, d'amateur de sport?
Oh, assurément. Moi, là, honnêtement, là, ma blonde puis ma fille me trouvaient drôle parce qu'ils m'entendaient du salon, que ce soit en bas ou salon en haut, là, peu importe où je l'écoutais, ils m'entendaient de l'encourager, là. Puis moi, j'ai toujours aimé le tennis féminin. Puis là, vous allez dire, c'est sûr, les filles sont belles, les petites jupettes, puis tout. Mais au-delà de ça, ce que j'aime, c'est la durée des échanges. Tu sais, on commence le point, c'est 40-40, mettons, puis là, chance de bris. Puis là, il peut avoir 20 coups de raquette. Tu sais, les hommes, c'est souvent expéditif. Puis là, le plus ça va, le plus tu t'avances sur ton siège. Tu sais, puis il y a eu des points où elle a fait, là, j'ai bondi avec la main d'un zère. Yeah! Ah ouais! Tu sais, j'étais vraiment content pour elle. Fait que oui, elle m'a fait triper. Puis moi, c'est certain, dans mes beaux moments de sport, oui. Mais là, maintenant, c'est, tu sais, moi, Leila Annie Fernandez, là, c'est gravé. Je vais continuer de la suivre, là, puis je vais continuer d'être dans ses fans. Puis la je suis certain qu'elle va rester elle-même. Je suis certain que. Tu sais, il y a des athlètes, des fois, qui changent, mais tu sais, elle, quand on lui a demandé, là, je me souviens, lors d'une entrevue, on lui a demandé, là, ça a été ta fête pendant la quinzaine, tu vis des beaux cadeaux de fête. Évidemment, la fille, elle parlait de ses accomplissements au tennis, mais elle a ramené ça à « Ouais, je suis chanceuse, là, ma mère est là, ma sœur est descendue, j'ai mon monde avec moi, tu sais. » Fait que là, tu peux voir les valeurs humaines qui ont été inculquées à cet enfant-là, puis je suis certain que ça partira jamais, donc on va continuer de... On va continuer de la suivre, ça c'est sûr et certain.
En tout cas, t'en parles encore avec une belle passion, même une semaine après, là, je veux dire.
Ah non, je l'aime, là. Je l'aime d'amour, là.
On te croit, toi aussi, Nico, je te laisse enchaîner.
Ouais, ben tu sais, Jean-François, tu es un gars de télévision aussi, tu aimes en regarder aussi à la télévision beaucoup de sport. Est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant, tu trouves, dans ce réflexe-là qu'on a encore aujourd'hui de se rassembler autour de ce médium-là? Lorsque l'histoire est bonne, les gens répondent. Y a-t-il quelque chose de rassurant, tu trouves, là-dedans?
C'est rassurant pour la télé, c'est rassurant pour les annonceurs, tu sais, parce que c'est encore un des... S'il y a quelque chose qu'on écoute en direct encore, c'est le sport. On veut pas... des fois, on le fait parce qu'on est obligé, mais... Tu sais, même moi, il y a une fois, là, j'ai manqué le début de son match, puis je l'avais enregistré, là, c'était la demi-finale, tu sais, puis... Mais c'est plate, parce que t'as l'impression que les autres, tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis que les autres sont en avance sur toi, fait que s'il y a quelque chose qu'on aime encore regarder, c'est le sport, puis pendant cette quinzaine-là, à regarder mes amis, moi aussi, là, sur Facebook, encourager Leila Annie Fernandez. Je me disais, bon, lui, c'est un fan de tennis, lui. C'est ma mère qui m'a dit, hey, es-tu le fun, la petite? Man, t'as écouté le tennis? tu sais, fait qu'il y a quelque chose de rassembleur puis de rassurant. Puis c'est là que je me suis dit à quel point ça nous avait manqué pendant la pandémie. Tu sais, il y a eu moins d'événements, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça vient chercher en dedans de nous, mais C'est ça, d'être assis devant une compétition, quand tu as un sentiment d'appartenance pour quelqu'un, c'est de très belles émotions qui sont difficiles à recréer. Puis des fois, tu t'analyses, tu fais, mais mon Dieu, je suis rendu debout, je suis debout dans mon salon. Pourquoi je suis debout dans mon salon? Je la connais pas, j'ai aucune influence à partie. Pourquoi je suis... Mais c'est, je voulais tellement pour elle, puis tu sais, c'est la même chose, là, je veux dire... Une game du Canadien, tu sais, quand on prend pour quelqu'un, là, ça vient nous chercher en dedans, puis c'est des émotions qui sont difficiles à aller chercher.
Et est-ce que le gars de télé a perçu quelque chose en Layla de dire, OK, elle va être bonne longtemps pour les caméras, pour les Kodak, parce que son discours, parce qu'elle joue bien?
Moi, elle m'a jeté à terre pour son aisance avec le micro, là. Je veux dire, vous faites des médias, je fais des médias. Installe-moi Flushing Meadows au milieu du court. Quand tu sais qu'il y a des millions de spectateurs qui te regardent, pose-moi des questions, ça se peut que ça sorte croche, puis qu'après, une fois assis dans le vestiaire, je fasse « Ah, j'aurais dû dire ça! » Hey, elle disait les bonnes phrases tout le temps. Tu sais, l'affaire du sirop d'érable, toujours humble, toujours remerciant les gens. Tu sais, elle est allée le chercher, New York, là, il n'y a pas une fois en entrevue qu'elle n'a pas fait « Hey, merci New York derrière moi. » Là, les gens new-yorkais, « Oh oui, c'est grâce à nous. » Tu sais, combien de fois elle leur a dit « Vous m'avez donné de l'énergie aujourd'hui. Des fois, j'avais un petit peu de misère, puis là, je vous entendais. » Tu sais, elle était merveilleuse. Puis à la fin, lors de la finale, un peu déçue, tu sais, elle était déçue, d'oser dire, je ne sais pas le nom de la dame qui faisait la présentation, « Repasse-moi le micro. » Pour faire son allusion au 11 septembre, ça prend énormément de confiance. Là, la majorité des gens auraient fait comme je l'ai oublié de le dire. Je voulais le dire, je l'ai oublié. Tant pis, on passe à autre chose. Non, redonne-moi le micro, j'ai oublié de dire quelque chose. Ça prend de la confiance. Fait que oui, elle va, je pense qu'elle est bien conseillée, mais comme je le disais tantôt, je pense qu'elle a des valeurs comme ça. C'est que son discours va rester.
Puis tu sais, tu dis, elle dit toujours les bonnes choses. Dis-moi, mets-moi au centre du US, au centre du terrain du US Open. Ça se peut que ça sorte pas comme je veuille. Nous autres, c'est notre travail. Imagine, elle, c'est même pas son travail.
Exact.
C'est ça qui est incroyable.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui. Puis tu sais, puis elle a 19 ans, là. Fait que tu sais, quand elle va avoir de l'expérience, tu sais, à 24-25, là, elle va être incroyable avec les médias. Puis je lisais récemment là, à propos de ses agents qui disaient que là, elle entre dans une autre game. Là, les commanditaires vont se l'arracher parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. On s'est attaché à elle. En plus de ça, là, je vais dire n'importe quoi, mais son père équatorien, puis sa mère asiatique, c'est tout ça, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tu sais, elle a un beau mélange. Elle est jolie, mais elle a un beau mélange aussi pour
vendre attirer tout le monde,
plein de produits. Là, tu sais, c'est dans l'air du temps, la diversité et tout et tout. Tu sais, même nous autres, là, moi, je me suis dit, des fois au Québec, on parle de racisme, puis on parle d'intégration. Y a-tu quelqu'un qui a fait, « Moi, c'est une petite Fernandez à l'air mexicaine, je ne l'encourage pas. » Non. Non, c'était tout le Québec là, qui était derrière, là, que ce soit Tremblay, Sigouin, McNichol, là, tout le monde était derrière Leila Annie Fernandez. Fait que, ça prouve que c'est ça. Elle a réussi à rassembler tout le monde et c'est merveilleux.
Ah, c'est drôle que tu dis ça parce que faudrait qu'on en parle avec Hugues, qui est notre expert marketing, Hugues Léger. Je ne sais pas si tu le connais, là, il travaille pas mal dans le monde du sport aussi, mais c'est effectivement super intéressant ce que tu dis par rapport à ce qu'elle représente en termes de diversité, alors que c'est un thème récurrent et important, non seulement mondialement, mais dans le monde du sport aussi. Elle vient peut-être de peser sur le jackpot, là.
Ben, elle, puis...
Emma Raducanu aussi.
Oui, Raducanu aussi, là. Je veux dire, elle aussi est bonne au tennis, elle est belle comme un cœur, elle a tout pour elle, là. Fait que ces deux-là entrent dans une autre phase, là. J'imaginais l'agent faire oh, ça va être le fun, là. J'attends Adidas, Nike, je les attends toutes, là, venez-vous-en. Ben, c'est tant mieux, là, ils ont fait les sacrifices pour, parce qu'on réalise pas hein, les sacrifices derrière une carrière comme celle-là, là, puis le doute, et puis fait que tant mieux pour elle.
Et Jean-François, il y a une autre belle histoire au US Open, un autre gars de chez nous, Félix Auger-Aliassime. À quel point tu suis aussi Félix?
Ben, en fait, lui, je le suis depuis plus longtemps. Pour ça, peut-être Leila, ça a été comme une surprise. Là. Il y a 2 ans, elle jouait à Repentigny chez les juniors. Là. C'est ça qui est comme... Bon, Félix, je suis jaloux. Ça, c'est différent. Non, mais tu sais, il y a tout. Là.
Il y a tout.
Il est grand.
Il y a du fédéral dans le nez.
Il est talentueux, grand, élancé, beau bonhomme, jeune. Tu fais, ah, mon Dieu, je voudrais sa vie, tu sais. Je pense que ça va peut-être être un petit peu plus long pour Félix parce que chez les hommes, on dirait que c'est plus long percé. Chez les filles, ça arrive souvent, là, une surprise comme ça. Quelqu'un qui arrive, qui repart un peu, qui revient. Le top 5 est moins, top 10, mettons, est moins figé dans... Chez les hommes, aller détrôner ceux qui sont là dans le top 5, là, c'est tout un. C'est difficile. Puis on l'a vu là, en demi-finale. Son adversaire en a fait une. C'était Medvedev, hein?
Ouais.
En a fait une bouchée. Là, il manquait pas grand-chose, mais il manquait quand même quelque chose. Là, fait que, mais il est tout jeune, puis on va continuer de le suivre. Mais je pense que ça va être un petit peu plus long parce que c'est difficile. Tu sais, garde Federer, Nadal et Djokovic ont demi. Ça fait 10 ans qu'ils dominent, puis il y en a plusieurs qui se sont essayés à aller percer ce trio-là. C'est pas facile de se rendre top 5. Là. Plus difficile, à mon avis, chez les hommes que chez les femmes.
Ouais, c'est définitivement plus difficile. Mais tu sais, c'est fou pareil quand même quand on regarde ça, parce qu'on dit que ça va être plus long d'une certaine manière, mais il est quand même à la porte du top 10. T'sais. Il y a comme 10 joueurs qui sont meilleurs que lui au monde présentement. Tu sais, c'est quand même fou ce qu'il a réussi à réaliser là à un aussi jeune âge. Puis même, tu sais, on a parlé de constance pour lui au courant de l'année, mais d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on exagérait, parce que tu peux pas être inconstant puis être 11e joueur mondial, c'est impossible.
Ah non, mais il est... Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait. Là. C'est phénoménal, un carré d'as au US Open comme ça. Là. Ça je ne suis pas en train de dire. Mais après ça, de 11 à 5, là, je pense que c'est plus long que de 60 à 15. Tu sais, 60 à 15, oups, tu peux descendre assez vite. Mais après ça, aller chercher les autres, là, les dernières grenailles, c'est plus difficile. Mais il va y arriver. Hein. Il y a tout pour lui. Là. Puis moi, ce qui m'impressionnait dans ses matchs à lui, des fois, quand ça allait moins bien, il y a un service très puissant, puis pouf, pouf, deux as, oups, il était de retour dans le point, c'était pas trop long. Là, fait que il y a un avenir vraiment prometteur, là, Félix Auger-Aliassime. Puis les deux, on va continuer de les suivre, c'est sûr.
Et tu as évoqué le Big Three. On a un débat ici à l'émission, là, on se demande toujours qui est le plus grand. Et là, si tu vois, on va jouer un peu au gérant d'estrade. Pour Jean-François Barry, c'est qui le plus grand joueur de tennis de l'histoire? Est-ce que c'est Djoko, Nadal, Federer? Un autre?
Là, de l'histoire, là, je suis pas assez ferré. Je vais y aller parmi ces trois-là. Okay? Mon préféré, celui que j'aime le plus, c'est Nadal. Parce que je l'aime. Il est plus flamboyant. Il court toutes les balles. Je l'aime, Nadal. Mais je pense que le meilleur, le point de vue tennis, là, le classique tennis, c'est Roger Federer. Je pense que lui, il a tous les coups, il a tout un arsenal. C'est ce qui lui permet de jouer d'ailleurs encore aujourd'hui au tennis, là, malgré son âge. Fait que j'irais avec Federer. Djokovic, personnellement, je l'aime pas. Je l'aime
pas.
T'es
pas seul.
Non, mais on avait fait ce débat-là une fois à la radio. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il m'a jamais rien fait. Mais je ne sais pas, il me revient. Lui, il me revient pas. Je le trouve arrogant. Je le trouve fendant. Lui, là, peu importe qui joue contre Djokovic, je prends pour l'autre. À ce point-là, lui, il me revient pas. C'est ça, c'est de même.
Il y a eu une année difficile au niveau des relations publiques, honnêtement. Là, je pense que déjà c'était pas le favori au niveau des trois. Là, toute la question autour de la COVID, puis tu sais, il était presque anti-masque, anti-COVID au départ. On l'a vu dans un autobus au mois de janvier l'année passée. Tout le monde avait des masques, lui n'avait pas. Il avait organisé un tournoi aussi où pas de distanciation, pas rien. Le monde se prenait à bras. Il y a eu une année très, très difficile au niveau des relations publiques.
Il a lancé une balle sur une petite fille.
Ben, c'est notre affaire. En plus, au US Open l'année passée, c'est ça, il a été aussi suspendu. Non, je pense que ton feeling est le feeling de façon générale, mais ça, je pense que c'est la quote du show. Quand quelqu'un joue contre Djokovic, je prends pour l'autre.
Mais ça y enlève rien à ses qualités de joueur de tennis. Là. Je suis capable de voir que c'est un sacré bon joueur de tennis. Mais des fois, j'ai l'impression que même lui le ressent peut-être qu'il a pas la même cote d'amour que les deux autres. Puis c'est peut-être pour ça. On dirait qu'il veut qu'on l'aime. Tu sais, il nous regarde avec le poing dans les airs. Regarde, montre-le pas. Federer, fais pas ça. On l'aime avec... Il faut que ça vienne de nous. Tu peux pas nous forcer à t'aimer. Laisse-nous aller. Mais bon, il va sûrement être numéro un pendant un petit bout de temps. Je pense que Federer, on achève une belle époque. Là. Un jour, on va se vanter d'avoir vu Federer, Nadal et Djokovic. Là. Nadal commence à être blessé, Federer aussi. Djokovic a l'air encore en bonne forme. Mais je pense que les deux autres vont tranquillement, malheureusement, descendre au classement. Fait que, ça ouvre toute la place à Djokovic. Je ne sais pas qui c'est qui est tombé dans vos poubelles. Pas bien été.
C'est qu'on est à notre... on a un commanditaire qui est l'Hôtel Montville et on enregistre à l'Hôtel Montville. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de s'en faire jouer dans son échelle. Mais pour ajouter à ce que tu dis, c'est vrai qu'il est dans les trois le plus mal aimé d'une certaine manière. Et ça paraît beaucoup au niveau des commandites parce qu'il est même pas proche de Federer et Nadal en termes de revenus. C'est ce que Hugues Léger nous disait, je pense que c'est la semaine passée dans notre épisode. Et ce qui est fascinant, c'est que bon, d'un point de vue statistique, il est... En tout cas, à mon avis, à moi, d'un point de vue statistique, il est le plus grand joueur tennis de l'histoire. Il a à peu près tous les records importants. D'un point de vue statistique, c'est indéniable. Dans tous les autres sports, il serait au numéro un des commandites. Tu regardes Cristiano Ronaldo, tu regardes Messi, tu regardes Sidney Crosby, tu regardes LeBron James. Et Novak Djokovic, il est un peu l'exception et je pense que ça confirme un peu ce que tu dis dans le sens que il est définitivement moins aimé. Puis il y a une espèce de question intangible. Déjà, aux relations publiques, c'est pas le meilleur, là, mais tu as raison, il y a une espèce d'intangible qui fait en sorte qu'il est le plus mal aimé des trois, je pense.
Ouais, puis quand, je sais pas, quand il est pas content après l'arbitre, quand il, je sais pas, ça, on dirait que son mauvais caractère transperce. On a l'impression que dans la vie, il est pas si agréable, tu sais, puis c'est ça qui vient nous chercher. Puis, tu sais, mettons, Nadal avec son petit logo de taureau, tout ça, j'en porterais un, tu sais. Djokovic, ben écoute, là, il peut sortir de quoi? Là? Tu vas me le donner, je le porte. Ça porte sa casquette? Jamais. Jamais. Honnêtement, moi, là, je le croise, je me fais même pas poser avec.
Mais je vais te raconter quelque chose.
Te dire à quel point ça ne passe pas.
Mais c'est lui qui voudrait se faire poser avec toi.
C'est ça.
Mais deux, Nico, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, puis je ne sais pas si je l'ai déjà raconté au podcast. Je l'ai raconté à Antoine Deshaies dans une des entrevues qu'on a fait, mais un soir, après la Coupe Rogers, c'est moi qui est là pour TVA, qui fait le day-to-day. Là. J'en ai pas fait beaucoup du day-to-day. Je faisais plus du feature, mais du day-to-day, j'étais là ce soir-là. Puis, je suis un des seuls journalistes parce que son match a fini vraiment, vraiment tard. Puis, tu sais, c'était à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais il dansait sur la tune Get Lucky de Daft Punk après chaque match. Ouais. Et là, il dansait après ses victoires. Fait que là, en conférence de presse, on est trois journalistes, là, puis il est tard, puis il s'en fout, puis ça a pas l'air de tenter, mais pas en tout. Puis là, je dis, tu sais, parle-nous de ton match, would you say that you got lucky avec un petit sourire dans la voix? Et là, le regard qu'il m'a fait, ça a été 5 secondes de regard intimidant en voulant dire, c'est quoi cette question-là? Tu l'as-tu vu le match? Puis il y a quelqu'un qui a passé en arrière parce que moi, je suis en train de fondre sur mon banc. Je n'étais plus là, là. Puis il y a quelqu'un qui a dit « like the song ». Puis là, il a fait « huh ». Puis là, il a répondu. Mais en tout cas, ça confirme peut-être un peu ce qu'il dit. Mais en même temps, je ne le connais pas personnellement. Là. C'est ma seule expérience avec Novak.
Mais c'est toutes des petites affaires de même qu'on accumule. Puis ça donne l'impression qu'on n'a pas le goût de l'inviter à un party piscine en arrière de la maison.
On te gardera pas indéfiniment, Jean-François. Merci déjà infiniment de t'être joint au podcast en ligne et venir jaser de tennis. En tout cas, je peux te dire une chose. Je sais que tu es un papa de hockey. Ça, je sais très bien ça. Au mois d'août, les camps d'entraînement de hockey commencent, mais au mois d'août, il y a aussi l'Omnium Banque Nationale. Fait que je pense que tu vas être obligé de te diviser l'année prochaine en Toronto, Montréal puis Bécomo.
Mais là, l'année prochaine, ça va être les filles à Montréal?
Non, ça va être les
hommes à Montréal. Non, on aurait à Toronto.
À Toronto.
Parce tu vas te séparer en Toronto, Montréal, Bécomo. Je vais aller voir Léla puis Bibi. Ben, Bécomo, ouais, mais là, logiquement, Bécomo, l'année prochaine, il a fait l'équipe cette année. Fait que ça devrait être une formalité l'année prochaine. Fait que le camp va être moins stressant. Là. Ben, à moins. Ouais. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver qu'il ne le fasse pas, là, mais logiquement, il va y aller l'année prochaine. Les parents vont savoir. Est-ce qu'il s'en vient, ou est-ce qu'il s'en va à l'école, ou est-ce qu'il s'en va à sa pension? Fait que ça va être moins stressant que cette année.
Ben merci infiniment. Puis au plaisir de te croiser. Si jamais on te croise à l'Omnium Banque Nationale l'année prochaine, viens nous serrer la main, viens nous jaser, ça va nous faire plaisir. Puis tu reviens quand tu veux, Jean-François. Et merci infiniment pour ton temps.
Grand plaisir. Salut, boys.
Merci.
Merci.
Bye bye. Merci. Merci, Jean-François. Ah, Nico, c'est quelle entrevue intéressante, hein? Et, je veux dire,
génial, génial.
Il a été vraiment incroyable. Et tu sais, regarde, quand je disais, on le sent dans sa voix là, qu'il y avait de la passion. C'était, tu sais, je pense que c'était vraiment véritable. Là. C'était indéniable. Ah, Nico, avant qu'on passe au troisième bloc, je veux juste qu'on revienne sur un petit élément de la semaine passée. On a parlé du US Open avec Jean-François, mais on a noté que la finale des femmes a tiré beaucoup plus.
Quand même.
17 % de plus que la finale des hommes et 2,4 millions pour les femmes et 2,05 pour les hommes. Et ça, moi, ça me surprend. Okay? De un, tu avais deux joueuses qui étaient pas nécessairement, qui n'auraient pas dû être en finale. Et deux, je veux dire, tu avais Novak Djokovic à la porte de l'histoire pour deux des records les plus importants de l'histoire du tennis, c'est-à-dire 21 grands chelems potentiels et le grand chelem sur un calendrier. Honnêtement, c'est quand même relativement surprenant. Es-tu d'accord avec moi que la finale des femmes est tirée plus que la finale des hommes?
Ben oui, je suis surpris. D'autant plus, pour ajouter à ton explication, il n'y avait pas de joueuses américaines. À la rigueur, si... S'il y avait une jeune joueuse américaine, tu sais, on sait, les Américains sont chauvins, ils aiment encourager les leurs. Mais là, aucunement. Une Canadienne, une Britannique, oui, d'accord, évidemment, deux talents exceptionnels, deux jeunes joueuses qu'on a admirées, qu'on a aimé voir jouer. Mais de voir que oui, compte tenu aussi que l'autre finale opposait le numéro 1 et le numéro 2, c'est renversant et tant mieux. Là, je vois la statistique, là, tu vois le tweet de Billie Jean King qui dit qu'en moyenne, le sport féminin a 4 % de l'attention médiatique ou du moins
aucun
de
coverage. Sens.
Ben oui, de un, ça n'a aucun sens, mais de voir qu'on a pu renverser la vapeur dans un tournoi aussi important que le US Open, c'est franchement fascinant et tu le dis hautement encourageant.
Ouais, tu sais ce que je pense de Billie Jean King. Je trouve qu'elle continue de faire avancer son sport. Elle a fait des choses phénoménales, c'est-à-dire qu'elle a posé les bases pour la WTA, qui est le sport le plus payant chez les femmes. D'ailleurs, il y a environ un an, Nico, je sais pas si tu viens, mais on faisait un épisode sur le fait que la Fed Cup changeait de nom pour la Billie Jean King. Ça a été à peu près il y a un an. Alors, je veux qu'on fasse un petit passage sur Billie Jean King qui a pris soin de noter qu'aux États-Unis, la finale des femmes a tiré plus que les hommes.
T'as vu, je viens de voir la description de Billie Jean King dans sa bio « Sports Icon ». Donc, elle-même le sait qu'elle est une grande dame du tennis.
Ben franchement, Nico, je suis pas sûr que c'est elle qui gère ses médias sociaux.
Non, je suis pas sûr
que c'est elle qui s'installe avec son téléphone puis qui est comme...
tweet et qui fait des TikTok.
Ouais, c'est ça. Écoute, si oui, ça vaudrait la peine de faire une histoire juste là-dessus. Mais en toute franchise, je serais convaincu.
T'as sûrement raison.
Moi, être à sa place, je ne gérerais pas le compte Alexandre Réginval. Ça, je peux te dire ça. Je t'engagerais toi, Nico, pour le faire.
Ah, ben oui. Ou sinon, Abraham et Nico qui font un boulot colossal pour nos médias sociaux.
Ah, c'est vrai. On pourrait prendre ceux qui font le podcast sur la ligne. Déjà, ils vont avoir développé une carrière. Alors, c'était une petite mention que je voulais faire avant qu'on parle au troisième bloc des éléments à surveiller. Alors, la finale des femmes qui dirait plus que les hommes. Moi, je trouve ça intéressant. Honnêtement, j'ai pas vérifié les chiffres à savoir si ça arrive régulièrement. Là, dépendant des tournois, les athlètes locaux, tout ça, ça peut effectivement entrer en cause. Mais là, on n'avait pas deux athlètes locaux au US Open. Tu sais, ça avait été Serena contre Sofia Kenin.
Oui, puis on le voit de plus en plus, notamment, tu as sûrement vu aussi que la finale de soccer féminine a attiré plus de gens que toute autre épreuve, du moins au Canada, puis ailleurs. Là, je veux dire, non, le sport féminin se doit d'avoir plus de représentation, plus de notoriété. Et assurément, si d'autant plus que ce sont deux jeunes joueuses et ils ont comme instauré des bases, c'est-à-dire que dorénavant, lorsqu'elles feront des finales Grand Chelem, elles seront suivies. Elles ont séduit la planète tennis. Donc, je suis convaincu que si Leila ou Emma font d'autres finales Grand Chelem, ce qui sera le cas, là, les gens seront au rendez-vous.
Ouais, moi aussi, je suis convaincu. Puis peut-être que, comme on disait la semaine passée, on a assisté à le début d'une grande rivalité.
Ben oui, ben oui.
C'est très possible. C'est très possible. Nico, on va faire une courte pause. Yes. Au retour, on revient avec Hugues sur ce qu'on va surveiller la semaine prochaine en dehors de la Coupe Laver. Le 30 septembre, en soirée, ce sera le grand lancement de la toute nouvelle terrasse de l'Hôtel Montville. Une vue incroyable. imprenable sur Montréal, un tout nouveau décor et bien plus encore vous attendre. Pour réserver votre place à la soirée d'inauguration, rendez-vous sur le site hotelmontville.com. Messieurs, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine. Et ça, ben, c'est ton département, Hugues. À qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine?
Cette semaine, l'Open de Moselle, donc à Metz en France, qui est un très beau ATP 250. Vous allez voir Andy Murray qui va faire le tournoi cette semaine. Ils ont quand même un très beau tableau pour un 250. En fait, les deux 250 sont intéressants. Il y en a un au Kazakhstan aussi. Et c'est Karatsev, notre ami Karatsev, qui est premier favori. Je pense qu'il va aller chercher des points. Il est dans la course pour les finales de l'ATP cette année, en 12e position à la race pour cette année. Donc, il se passe des choses intéressantes. Et si vous avez l'occasion de voir l'Open de Moselle sur ATP Tennis TV, c'est un des beaux tournois en tennis intérieur d'enseigne qu'ils font. Donc, très, très beau tableau cette semaine. Donc, Open de Moselle à voir avec des Canadiens. En lice, évidemment, on a parlé de Pospisil qui est sur le tableau et Braden Schnur qui s'est qualifié. Donc, d'autres raisons là, de suivre l'Open de Moselle cette semaine.
Oui, exact. Il y a un WTA à Columbus aussi cette semaine. Et il y a également à Ostrava en République tchèque des tournois qui sont à surveiller du côté de la WTA. Oui. Messieurs, on va continuer rapidement. Hugues, tu parlais du tournoi de fin de saison. Est-ce que Félix Auger-Aliassime pourrait s'y retrouver? Il n'est pas loin, là. Il est dans la course.
Bien sûr. Bien, tout à fait. Là, il est même devant Karatsev dont je parlais. Donc, il y a des bonnes chances de faire. Donc, espérons qu'il va réussir à aller chercher quelques points encore. Mais il est au plus fort de la course. Au minimum, je pense qu'il va être remplaçant, mais je pense qu'il va se qualifier encore.
Ben présentement, ouais. Là, il est. Si, parce que dans le fond, il est qualifié parce que ce sont les 8 premiers. Considérant les
remplacements.
Considérant les blessés, puis c'est vraiment un tournoi fantastique, là, les finales de l'ATP. Présentement, les 8 premiers, là, si je considère que Federer n'y sera pas, Nadal n'y sera pas et Thiem n'y sera pas, ce sont Djoko, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Rude et Félix. Ensuite, chapeau. Ouais. Si on pouvait peut-être pas deux Canadiens, là, mais aussi, au moins un Canadien, ce serait vraiment une belle conclusion pour cette belle saison pour les Canadiens.
Ouais, je suis d'accord que virtuellement…
Ça augure très bien.
Présentement, il est là. J'ai pas vu. Il reste encore, par contre, des gros tournois.
Oui, il n'est pas qualifié, mais si ça commençait aujourd'hui, il serait le 8e qualifié, exact. Le dernier qualifié.
D'habitude, oui. Il reste à peu près un tournoi, juste un gros tournoi. Il y a vraiment beaucoup de points à aller chercher, c'est-à-dire à Paris. D'habitude, c'est un game changer pour ceux qui sont sur le fringe, comme on dit. Mais là, avec Indian Wells dans le décor, ça pourrait effectivement changer le décor. Mais si il a des tournois, disons, décents qu'il atteint, je ne sais pas, une ronde des 16 aux deux tournois, je pense que ça pourrait être suffisant. Il faudrait que je fasse le calcul pour l'avoir. Messieurs, je vous remercie infiniment pour cet autre épisode de Sur la ligne. Je rappelle qu'on est le podcast, l'émission de radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. On est diffusé au 91.9 Sport les lundis en fin de soirée. On est également en reprise la fin de semaine. On a des entrevues aussi exclusives sur nos Spotify, Apple Podcasts, YouTube. On est diffusé aussi sur le site de Tennis Canada et de l'Omnium Banque Nationale. Et nous sommes toujours à la recherche, ceux qui nous écoutent, du partisan le plus maniaque de tennis au Québec. On veut faire une série de reportages avec ceux qui trippent le plus sur le tennis. Alors, si vous écoutez le podcast, venez nous parler sur nos plateformes médias sociaux. On a fait des posts sur Instagram, Facebook, etc. Venez nous dire pourquoi vous êtes le plus grand partisan de tennis au Québec. Et moi, je vais me déplacer pour aller faire un reportage sur vous. Ça va être un beau souvenir pour vous, puis nous, ben, on va être content de rencontrer les fans de tennis un peu partout au Québec. Et ben, sur ce, Nico, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.